Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 5 Charivar, 1401 du calendrier iranien, 27 août 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran dénonce le refus d'Israël d'adhérer au TPP et demande une zone dépourvue d'armes nucléaires au Moyen-Orient. L'expansion des relations tous azimuts avec les pays africains est l'une des priorités de la politique étrangère de Téhéran. La Palestine remet à l'Organisation des Nations Unies sa demande d'adhésion à l'ONU et la DCA syrienne a intercepté près de la moitié des projectiles tirés lors d'une récente attaque israélienne contre la province de Hama. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères réaffirme que l'expansion des relations tous azimuts avec les pays africains reste l'une des priorités de la politique étrangère de Téhéran. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, qui est en visite en Afrique, a fait ses remarques lors d'une rencontre avec la présidente tanzanienne. Le diplomate iranien a énuméré à cette occasion les énormes potentiels économiques de l'Iran dans divers secteurs tels que le commerce, l'énergie, les industries et la technologie. Il a appelé au renforcement de la présence d'entreprises et d'acteurs économiques iraniens en Tanzanie et à la suppression de certaines restrictions consulaires telles que les exigences de visa. Pour sa part, la présidente tanzanienne a fait écho à l'appel d'Amir Abdollahian pour le renforcement des interactions économiques bilatérales. La mini-tournée d'Amir Abdollahian en Afrique l'a également conduit au Mali et à Zanzibar, où il a exprimé la volonté de Téhéran de partager son savoir-faire et sa technologie médico et scientifique avancée avec les pays du continent. L'Iran a fustigé le régime israélien pour avoir refusé d'adhérer au traité de non-prolifération nucléaire et de placer ses activités nucléaires sous supervision internationale et sous le régime de contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un diplomate de haut rang iranien intervenant à la conférence de l'ONU sur le désarmement nucléaire a fustigé les États dotés d'armes atomiques pour avoir manqué à leurs obligations d'éliminer leurs armes atomiques. Auparavant, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, avait critiqué l'inaction des délégués à la conférence de l'ONU pour leur refus d'exhorter Israël à rejoindre le traité de non-prolifération d'armes nucléaires. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. La Palestine renouvelle sa demande d'adhésion à part entière aux Nations Unies malgré les menaces américaines d'en bloquer le processus. L'ambassadeur palestinien auprès de l'Organisation des Nations Unies dit qu'il a commencé à consulter tous les membres du Conseil de sécurité. Riyad Mansour a déclaré que la question devrait avancer étant donné qu'il n'y a pas d'initiative de paix sur la table. Il a ajouté que le succès de la candidature palestinienne enverrait un signal aux dirigeants israéliens qu'ils ne pourraient jamais détruire une solution à deux États. Toute demande d'adhésion à part entière à l'Organisation des Nations Unies doit être approuvée par le Conseil de sécurité composé de 15 membres. L'allié principal d'Israël, les États-Unis, qui détiennent le droit de veto, se sont opposés sans surprise aux précédentes tentatives palestiniennes. En 2012, l'Assemblée générale a accordé à la Palestine le statut de non-membre. Cela permet à la Palestine de participer à l'ONU et de signer des traités, mais sans tous les droits dont jouissent les autres membres de l'Organisation des Nations Unies. Les défenses aériennes syriennes ont intercepté près de la moitié des projectiles tirés lors d'une récente attaque israélienne contre la province de Hama au nord-ouest, affirme un officier supérieur russe. Cette autorité militaire russe a déclaré aux médias que les avions israéliens ont lancé jeudi un total de 4 missiles de croisière et 16 bombes aériennes guidées contre un centre de recherche dans la ville de Masyaf. Il a ajouté que les troupes syriennes ont intercepté et abattu 2 missiles et 7 bombes guidées. Selon les médias syriens, 2 civils ont été blessés lors de l'attaque israélienne. Israël effectue fréquemment des frappes de missiles sur la Syrie. Damas a à maintes reprises condamné ces raids comme des actes d'agression et a déposé des plaintes officielles auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux. Le régime israélien lance fréquemment et systématiquement ses attaques, ciblant principalement les forces militaires et celles de la résistance qui combattent les terroristes soutenus par l'étranger. Damas a mis en garde contre l'agression et a déposé des plaintes officielles auprès de l'Organisation des Nations Unies. Damas dit se réserver le droit de répondre à l'agression israélienne. Le Pakistan déclare l'état d'urgence pour faire face aux inondations de la mousson qui, selon des chiffres d'État, ont tué des centaines de personnes et touché plus de 30 millions de personnes à travers le pays. Lors d'une réunion qui a duré 3 heures, le gouvernement pakistanais a appelé l'armée à assister l'administration civile dans les opérations de secours et de sauvetage. Des pluies historiques ont dévasté les provinces du Sindh, de Punjab et du Baloutchistan. Le Baloutchistan est le plus durement touché, perdant la communication avec le reste du pays. 4 autoroutes y sont bloquées en raison de glissements de terrain et de ponts endommagés. Un important pont ferroviaire est également emporté. Jusqu'à présent, au moins 235 personnes ont été confirmées mortes au Baloutchistan. Cela porte le nombre de personnes tuées dans tout le pays à plus de 900 cet été. Les résidents ont été invités à se déplacer vers les camps pendant que l'armée a été déployée pour aider les autorités civiles dans l'opération de secours. Le Pakistan a également appelé à l'aide internationale pour faire face aux conséquences des inondations. Le Premier ministre avait appelé mercredi dernier la communauté internationale à participer aux efforts de secours et à dépêcher de l'aide. Un haut diplomate iranien a dénoncé le refus persistant d'Israël d'adhérer au traité de non-prolifération nucléaire, TNP, soulignant que l'établissement d'une région du Moyen-Orient dépourvue d'armes atomiques est de la plus haute importance. L'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, Majid Tartaravanchi, a fait ses remarques lors d'un entretien avec des journalistes vendredi en marge de la 10e conférence d'examen des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui s'est tenue au siège de l'ONU à New York. La question du Moyen-Orient en tant que région dépourvue d'armes nucléaires est l'une des discussions importantes parce que le régime israélien, en tant que seul détenteur des centaines d'ogives nucléaires, n'est pas prêt à adhérer au traité de non-prolifération nucléaire et à placer son centrale nucléaire sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le refus d'Israël d'adhérer au TNP intervient alors que certains pays coopèrent avec le régime sioniste et l'ont toujours soutenu. La délégation iranienne participant à la 10e conférence d'examen du TNP a joué un rôle constructif en soulignant l'importance d'une région du Moyen-Orient dépourvue d'armes de destruction massive, a-t-il déclaré. Comme les documents relatifs aux conférences d'examen du TNP en 1995, 2000 et 2010 ont explicitement annoncé que le régime israélien devait adhérer au traité, l'équipe iranienne a souligné que la question devrait également être incluse dans la déclaration finale de la 10e réunion d'examen du TNP, a ajouté Majid Tartaravanchi. Il a souligné qu'au cours de la conférence en cours, la République islamique d'Iran a clairement annoncé qu'elle ne reviendrait pas sur sa position sur l'importance d'un Moyen-Orient sans armes de destruction massive. Nous avons dit que cette question est l'une des lignes rouges de la République islamique d'Iran. Et s'ils veulent agir de manière honnête et constructive, la rhétorique utilisée dans les déclarations des conférences précédentes devrait également être utilisée dans cette conférence afin d'avancer vers un Moyen-Orient sans armes nucléaires, a souligné le haut diplomate iranien. Il a noté que la République islamique d'Iran cherche à parvenir à un consensus avec les participants à la conférence d'examen du TNP en cours, mais qu'il a des principes et que certaines mesures doivent être prises. Dans un discours prononcé lundi devant la 10e conférence des parties chargées d'examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, Tartaravanchi s'est dit préoccupé par l'absence du progrès dans la mise en œuvre de la résolution du traité de non-prolifération nucléaire de 1995 et de la résolution de 2010, un plan d'action sur le Moyen-Orient disant que le régime sioniste doit éliminer son stock d'armes atomiques. Majid Tartaravanchi a également dénoncé le double standard américain affirmant que l'adhésion d'Israël au TMP, sans condition préalable ni délai supplémentaire, et le placement de toutes ses activités et installations nucléaires sous les garanties globales de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont essentiels pour atteindre l'objectif d'adhésion universelle au TMP et la création d'une zone dépourvue d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Israël, qui poursuit une politique d'ambiguïté délibérée sur ses armes nucléaires, possède entre 200 et 400 ogives nucléaires dans son arsenal, ce qui en fait est le seul détenteur d'armes non conventionnelles en Asie occidentale.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Débat, une émission qui se passe ici à Téhéran sur les plateaux de Presse TV français. Aujourd'hui, une actualité, la Syrie. En effet, ces derniers jours, il y a eu des altercations entre les Américains et les Syriens, notamment l'armée syrienne, mais pas que. Les informations sont extrêmement floues puisque l'actualité européenne présente ça comme un échange de roquettes réalisé par les Iraniens et les Américains. En gros, c'est un échange tout petit. Ce sont des tirs qui n'ont eu aucune conséquence et pourtant l'actualité au Moyen-Orient est bien différente puisqu'on parle ici de feux de missiles de drones pour la seconde nuit contre les bases US à El Omar et à Conoco. Donc une actualité très différente, décrite de manière différente et c'est aujourd'hui le sujet de notre débat. Pour vous faire un briefing rapide, alors il y a eu un combat de corps à corps, il y a eu pendant deux nuits, donc des échanges de tirs, notamment de drones. On parle également de la réaction d'avions de chasse de la part des Syriens et des Russes pour complètement bloquer le côté air, l'espace aérien du côté syrien, afin que les Américains et les Israéliens n'interjaisent pas et ne tirent pas et ne fassent pas venir leurs propres avions de chasse. Donc on en est à une interaction directe avec les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie? La Syrie, ce dernier mois, on en a beaucoup parlé. Il y a eu notamment la réunion à Téhéran entre Poutine, Raisi et Erdogan. Erdogan a rebroussé chemin dans ses propos puisqu'il parlait il y a un mois de prendre d'attaque la Syrie, d'attaquer la Syrie. Il demandait l'aide à ses partenaires. Il n'en trouvait pas. Et là, c'est différent. On parle depuis plusieurs semaines d'Erdogan qui veut faire la paix avec Assad. Erdogan fait un pas vers Damas. Erdogan ne pense plus à attaquer. La Syrie, ce dernier mois, est dans l'actualité de partout, que ce soit dans l'actualité iranienne, dans l'actualité turque, mais également américaine. Donc rebonjour, nous revoilà sur le plateau de Presse TV français. Nous allons accueillir donc nos deux invités du jour pour parler du sujet de la Syrie. Alors bonjour à Madame Aïssar Midani, sur notre plateau ici virtuellement, analyste franco-syrienne qui se trouve actuellement à Damas. Bonjour Madame.
Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe. Je vous entends très mal avec beaucoup de bruit.
C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir. On va essayer de faire quelque chose pour le son. De l'autre côté, nous avons donc le Luc Michel, géopoliticien, qui se trouve, lui, en Belgique et qui, lui-même, est très actif dans le domaine de la géopolitique. Bonjour, monsieur Luc Michel.
Bonjour à vous, à votre plateau. Surtout, madame Midani, que j'ai toujours plaisir à retrouver.
C'est pour nous aussi un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est la Syrie. Vous n'êtes pas étonnés après ce qui est en train de se passer actuellement en Irak et en Syrie, les attaques de deux jours. Alors, madame Midani, si ça ne vous dérange pas, on commencera par vous. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que sont vos échos à vous concernant la situation actuellement en Syrie?
Bonjour. Bonjour à votre invité. Merci de votre invitation. Je ne sais pas si nous avons bien commencé le débat, l'émission, là, mais il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'écho. Alors, je vous entends très mal et puis sans doute vous m'entendez très mal. Pour la Syrie, alors la situation est très tendue du côté à la fois du nord et du côté de la ville de Tartous et de Hama, Tartous et Hmeymim. Hier soir, il y a eu une attaque au missile, en fait, une attaque israélienne. La plupart des missiles ont été interceptés, mais quand même, il y a eu 2 morts et des blessés, mais aussi des incendies dans des endroits assez, assez importants. Bien sûr, l'armée arabe syrienne s'est empressée de s'occuper de tout ça et puis de réagir. En même temps, en fait, du côté de la Turquie, il y a des agressions aussi sur les frontières turques, Tel Rifat, Rasetin, etc., Raselain, pardon. Et ils continuent à agresser la population, ils envoient des missiles et des projectiles sur la population visant à la faire partir et faire un changement démographique. Du côté de la base, syriennes, en fait, sur les puits de pétrole et de gaz, Al-Omar et Comeco, il y a eu aussi... Il y a par contre là c'est des réactions de la population, de la résistance populaire en fait, qui à la fois s'attaque aux bases américaines et aux bases turques. Il y a eu aussi un grand rassemblement des tribus et des personnes des habitants d'Al Jazeera en fait, qui est la région nord-est. Hein. Et ce rassemblement a eu lieu à Alep, en fait, regroupant des gens d'Erzur, d'Alep, etc. Dans ce rassemblement, la population non seulement proteste contre la présence et l'occupant américain et turc, mais aussi rassemble leurs forces pour continuer une résistance populaire, pas seulement continuer, mais aller aussi vers de meilleures coordinations et puis une plus grande résistance populaire de l'ensemble de la population, quelle que soit d'ailleurs à la fois ses croyances, ses ethnies, etc. Je voudrais là-dessus souligner le fait que en Syrie, on est toujours citoyen d'abord, et puis il y a tout un tas de spécificités en fait, à la fois ethniques et puis de croyances. La Syrie a toujours été un pays complètement, citoyen et laïque en fait. Donc, c'est très important. Et là, c'est une réponse à tous ceux qui veulent absolument parler de Kurdes, parler d'Arabes, etc. En Syrie, on est tous, les Kurdes font partie du tissu national syrien. Mais ce n'est pas parce que quelques Kurdes traîtres ou qui sont venus de l'étranger qui dirigent le mouvement FDS, qui n'est pas d'ailleurs que kurde, mais ce sont des gens qui sont vendus, dépêchés par les Américains et par les Turcs.
Merci, Madame Midani.
Qui viennent de Wadi Qandil et qui dirigent ce mouvement qui devient l'appui particulier des États-Unis pour agresser la région.
Merci, Madame Midani, pour ce point concernant la Syrie. Donc, je vous rappelle ce qui se passe en Syrie depuis 48 heures à 72 heures. Des attaques permanentes sont en train de se dérouler, notamment contre des bases américaines. Il faut savoir quand même que ce sont les Américains qui ont commencé en attaquant des cibles qu'ils ont dit pro-iranienne, mais cela a été réfuté par le gouvernement iranien. Et par la suite, tout s'est aggravé puisqu'il y a eu des attaques directes contre les bases américaines. Monsieur Luc Michel, vous êtes là-bas à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on dit actuellement là-bas en Europe concernant cette attaque? Est-ce qu'on en parle tout simplement?
Écoutez, on n'en parle absolument pas. Toute l'attention est focalisée sur l'Ukraine et on ne parle pas de ce qui se passe dans les autres théâtres d'opération. Un tout petit peu de la mer de Chine et pas du tout sur la Syrie. Ce qu'il faut constater, c'est qu'on est rentré décidément dans une nouvelle ère géopolitique. Aujourd'hui, c'est la Russie qui impose une zone d'interdiction aérienne aux Américains, eux qui ont voulu les imposer depuis 30 ans au reste du monde. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que Erdogan continue sa politique de coups de poker et d'opportunisme. Il est indispensable aux Américains sur l'Ukraine et il en profite pour mener des coups de poker géopolitique en Syrie. Il n'est plus considéré comme fiable par les Américains parce que Poutine a réussi à fracturer le bloc occidental. Il a apparemment renoncé à sa grande offensive contre le Kurdistan et les Américains ne se fient plus aux Turcs. Ils cherchent donc des prétextes pour maintenir une présence militaire offensive sur le nord de l'Euphrate et garder leur contrôle sur les Kurdes du PKK. Ne pas oublier que le contrôle américain, qui existe depuis plus de 10 ans, sous prétexte de la guerre civile syrienne qui a été lancée par les Américains eux-mêmes, elle permet aux Américains d'accaparer les ressources gazières et pétrolières syriennes qui sont volées à l'État syrien.
En effet, donc Luc Michel, vous parlez notamment donc il y a une estimation qui s'est faite concernant le vol de 66 000 barils par jour de pétrole en Syrie, un vol qui a été dénoncé par Damas, qui a également été souligné par différents gouvernements. Également une des raisons, Madame Midani, vous parliez de la résistance à côté des puits de pétrole, mais vous n'avez pas dit que c'était seulement la résistance, c'était le peuple, un peuple, vous avez dit, civique. On va dire aussi nationaliste, si je puis dire. Donc, la résistance et la Syrie en a marre de ce vol.
Tout à fait. Tout à fait.
Allez-y.
Vous adressez à moi?
Oui, c'est pour vous. C'est à moi. Allez-y.
Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il y a un vol systématique de nos ressources alors que les Syriens meurent de froid et puis on n'a plus d'essence pour pouvoir circuler, etc. Tout un tas de choses, tout un tas de difficultés quotidiennes, mais aussi des difficultés quotidiennes concernant l'alimentation, puisqu'ils nous volent aussi nos céréales et ils brûlent les champs, les récoltes aussi. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il est important de voir, je reviens un petit peu sur le plan politique et stratégique, alors je vois que Erdogan, il s'affole, Israël s'affole, mais tout le monde s'affole en fait parce que Israël s'affole du fait que les Américains sont prêts à signer ou disent qu'ils sont prêts à signer l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Donc ils s'activent tous les deux pour attaquer la Syrie, pour soi-disant s'attaquer aux bases iraniennes en Syrie. Ça a été toujours le discours des Israéliens quand ils bombardent la Syrie. Ils veulent bombarder les soi-disant bases iraniennes, alors que tout ça, c'est du pipeau, c'est faux. En Syrie, nous avons des experts iraniens qui nous aident à fonctionner, mais en fait, il n'y a pas de base iranienne et c'est complètement du bluff médiatique, hein, d'une part, et puis d'autre part, c'est pour porter atteinte en fait au moral des gens. Ils essayent d'accentuer cette pression. Mais d'un autre côté, je tiens quand même à montrer la versatilité de ce Erdogan, puisque en même temps, il commence à parler de l'importance du retour à la Syrie, que de toute façon est du retour à la stabilité dans la région, que la stabilité ne peut avoir lieu que si on traite d'égal, en fait, tous les deux avec le pouvoir syrien. Et il a apparemment, il finit par accepter sa défaite, en fait, la défaite de son plan des frères musulmans qui était de casser la Syrie et de mettre un groupe de frères musulmans à la tête, mais qui vouent allégeance à la Turquie. Donc, de la voix du ministre des Affaires étrangères et d'Erdogan même, récemment, qu'ils veulent retourner au dialogue, etc. Par contre, il faut quand même savoir que ce qui est le lendemain de la rencontre très importante qui a eu lieu à Téhéran avec Poutine et puis le président iranien, même l'ayatollah Khamenei qui était là et puis qui l'a rencontré. Et puis la présence, donc c'était la formule Astana, je dirais, sur la Syrie, pour l'apaisement. Et encore une fois, Erdogan a signé et a affirmé qu'il est important de reconnaître l'unicité, l'intégrité de l'État syrien, sa souveraineté, la souveraineté des terres syriennes, et puis la nécessité que l'État syrien exerce tout son contrôle sur l'ensemble des terres syriennes, et la nécessité de lutter contre le terrorisme.
Merci,
dès
Madame
le lendemain, Dani. des terroristes qui étaient soutenus par Erdogan, ils ont attaqué la Syrie. Donc c'est cette versatilité d'Erdogan dans sa politique qui continue à jouer de tous les jeux et de toutes les cordes.
Merci Madame Midani. En effet, vous en avez parlé, Monsieur Luc Michel, concernant la situation d'Erdogan. Il est vrai qu'on voit depuis un mois un changement de politique, puisqu'il y a un mois, on pouvait lire dans l'actualité et on pouvait suivre ses propos qui souhaitaient attaquer la Syrie, chercher des partenaires pour pouvoir réattaquer les frontières entre la Syrie et la Turquie. Et là, après le 19 juillet, date à laquelle a eu le sommet à Téhéran, qui c'est une forme de Astana 2, d'accord, donc le 19 juillet, après le 19 juillet, aux alentours du 20, M. Erdogan change de discours et indique qu'il veut faire un pas vers Damas. Non seulement un pas se fait, puisque leur ministre des Affaires étrangères se rencontre, mais là, va avoir une rencontre entre, en fait, on estime, étant donné qu'il va y avoir le sommet de l'OCS, une rencontre éventuelle entre Assad et Erdogan. Qu'est-ce que vous avez parlé de la versatilité de Erdogan. Est-ce que vous pensez que cette versatilité va finalement vers le Moyen-Orient et non plus vers l'OTAN et les États-Unis?
Écoutez, Erdogan, c'est un joueur de poker. Ce n'est pas un stratège ou un géopoliticien. Et il rappelle un peu le Donald Trump de la présidence Trump. Mais je pense qu'il a constaté qu'il avait perdu la partie en Syrie et que la protection des frontières turques du PKK ne sera plus assurée par les Américains par un accord avec le gouvernement de Damas et la Russie. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Erdogan n'est pas un allié de la Russie. Il est encore moins un allié de Téhéran, où il est à juste titre considéré comme un ennemi. Il faut simplement utiliser cette versatilité. Erdogan aujourd'hui sait qu'il est indispensable en Ukraine pour le soutien à l'Ukraine en mer Noire et au gouvernement Zelensky, et il en profite pour retirer des avantages au Proche-Orient. C'est tout ce qu'il faut retenir de cette affaire. Au XIXe siècle, on parlait d'une telle politique quand elle était menée par le sultan ottoman. On parlait de la duplicité levantine. Aujourd'hui, il y a une duplicité néo-ottomane d'Erdogan. Mais évidemment, tout cela est un facteur d'instabilité pour tout le Proche-Orient.
Madame Midani, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'Erdogan a un autre but autre que la Syrie, c'est-à-dire que pour lui, peut-être, sont envisagées plutôt les élections, parce qu'on dit Erdogan peut-être perdant, les réfugiés syriens posent problème également, c'est une donnée, parce que la Turquie est en pleine crise économique, le pain est cher, est cher, donc forcément pour les réfugiés aussi, ça revient très cher, le fait d'accepter des réfugiés et de les garder surtout. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même qui êtes actuellement à Damas en Syrie ?
Erdogan, effectivement, est en pleine crise politique tous les sondages montrent qu'il a beaucoup baissé et que s'il continue au niveau de la politique qu'il avait il y a 15 jours, il serait perdant. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une rectification alors qu'il annonçait une rectification réelle. Parce que avant, en fait, son programme, c'était zéro problème avec le voisinage. Or là, il n'a que des problèmes avec les voisinages. De là, on l'a vu aller vers l'Arabie Saoudite, l'Égypte, et il tient ce discours vis-à-vis de la Syrie. On l'a vu aussi renouer avec Israël, etc. Donc ça, c'est pour améliorer son image au niveau des pays de la région, d'un côté. De l'autre côté, vous l'avez bien souligné, il y a une crise en fait concernant les réfugiés syriens qu'il pensait avoir pour quelques mois parce qu'il pensait que l'État syrien allait s'écrouler en quelques jours et qu'ils allaient revenir chez eux et c'était fini, on n'en parle plus. Or là, il se retrouve avec un nombre important de réfugiés qu'il avait déjà encouragés et où il y a quand même aussi la population, le peuple turc commence à s'en plaindre. Troisième point, il y a aussi, sachez qu'il a amené les terroristes dans la région. Le terrorisme est venu en Syrie par la portière turque. Donc, ils ont été accueillis en Turquie. Ils sont passés aussi par les frontières de la Turquie et ils sont en Syrie soutenus par la Turquie. Et en fait, là, donc, il y a toute cette gestion de 40 ou 50 factions terroristes qui sont aux frontières syriennes et turques. Hein. En fait, c'est du côté d'Idlib, du côté d'Alep, etc., et tout le long de la frontière. C'est lui qui prétend lutter contre le terrorisme, c'est lui qui les dirige, c'est lui qui alimente ce terrorisme. Donc, effectivement, ça commence aussi à déplaire profondément à la population en Turquie. Et sachez quand même que l'opposition turque mène un combat très très important contre Erdogan dans ce sens parce qu'ils veulent récupérer la stabilité de la région et puis des rapports plutôt tranquilles avec la Syrie comme c'était le cas avant que Erdogan n'ait entretenu ce plan d'attaque contre la Syrie pour ses alliés l'OTAN. Il faut le dire quand même, l'OTAN, la Turquie est un membre de l'OTAN, donc ce plan, c'est un plan américano-sioniste, mais auquel la Turquie a adhéré pour ses propres objectifs, donc, et continue d'ailleurs. Mais maintenant, clairement, on voit qu'au niveau mondial, il y a un changement. La résistance de la Syrie a effectivement changé le monde, et qu'avec la Syrie, avec cette résistance de la Syrie, la Russie est devenue une force internationale, l'Iran une grande force régionale et la Chine aussi. Donc maintenant, il commence à essayer d'avoir un pied de chaque côté pour pouvoir assurer ses arrières et reprendre les amitiés, entre guillemets, avec le camp gagnant. À l'issue de cette guerre, de cette confrontation, je dirais, l'OTAN avec la Russie en Ukraine.
Merci, Madame Idani.
Voilà.
Merci, Madame Idani. Donc, comme vous l'avez dit, on parle de résistance. La résistance à l'heure actuelle est, je pense, on peut dire, très active. On pense notamment à la date de septembre que la résistance libanaise a indiquée concernant leurs propres problèmes avec Israël. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous pensez que ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie est également en lien avec toute la résistance qui existe à l'heure actuelle au Moyen-Orient ?
Oui, bien entendu, l'axe de la résistance, c'est aussi aujourd'hui une réalité géopolitique qui pratique la guerre hybride. La guerre hybride, elle a été inventée par l'Iran en 2006 au Liban et pas, comme on le croit souvent, par les Russes en 2013 en Ukraine. Il y a un front qui passe par le Hezbollah la Syrie avec les comités de défense populaire, avec l'Iran, avec Ansarallah au Yémen, avec les comités politiques au Bahreïn, mais aussi avec des pays africains. Il y a l'implantation des accords militaires entre l'Iran et le Mali ces derniers jours. Tout cela fait que l'axe de la résistance aujourd'hui, c'est une réalité mondiale qui va d'ailleurs jusqu'en Amérique latine, puisqu'il y a un Hezbollah qui est présent au Venezuela. Il faut comprendre que, d'une chose, cette réalité de l'axe de la résistance que les Américains n'ont pas réussi à détruire, c'est pour ça qu'ils ont imposé comme condition pour revenir aux accords de Genève que l'Iran renonce à la politique de l'axe de la résistance. Ils n'y arriveront pas. La seconde chose, il faut comprendre quels sont les fondements de la géopolitique d'Erdogan. Erdogan, tout d'abord, c'est une réussite économique. Il a offert la prospérité économique à la petite bourgeoisie musulmane turque. Aujourd'hui, c'est un échec. L'économie turque, elle est en train de s'effondrer et la livre turque est en train de s'effondrer. Mais fondamentalement, la Turquie est obligée d'agir dans le cadre du parapluie américain. Ce qu'on appelle le néo-ottomanisme, c'est-à-dire la volonté de reconstituer une sphère de prospérité turque, ça ne peut se faire que dans le cadre des projets géopolitiques américains.
Merci, Luc Michel. Je vous remercie. Merci, Luc Michel.
Printemps arabe de 2011, printemps africain de 2014.
Merci beaucoup, Luc Michel, pour votre intervention. Merci beaucoup à Madame Idani de Damas pour votre intervention. C'est ici que c'est fini le débat d'aujourd'hui, un débat riche qu'on pourrait parler pendant des heures, parce qu'à l'heure actuelle, le Moyen-Orient est en train de réagir. La résistance s'est éveillée et ces derniers jours en est la preuve. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission Le Débat. Je vous dis donc à la prochaine fois pour un autre sujet.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau bulletin de l'actualité du Moyen-Orient. Nous sommes dans les dernières étapes de la levée des sanctions contre l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a affirmé que Téhéran a déployé des efforts inlassable pour lever les sanctions, soulignant la nécessité pour les États-Unis de faire preuve de sérieux quant à la conclusion de l'étape finale des négociations nucléaires. Amir Abdollahian a ajouté « La partie américaine doit faire preuve de sérieux pour que nous puissions atteindre l'étape finale des négociations », soulignant que la partie américaine a pris note de notre réponse par l'intermédiaire du coordinateur européen qui lui a transmis les propositions écrites iraniennes et commence à l'étudier, surtout qu'il est important de se concentrer sur un certain nombre d'entre elles. Le ministre iranien des Affaires étrangères a précisé que nous sommes très sérieux au sujet des questions de sauvegarde et de garantie restées en suspens et nous ne tolérons en aucun cas que certaines des accusations sans fondement proférées par l'Agence internationale de l'énergie atomique se répètent au rythme des desiderata israéliens et de concert avec le régime sioniste. Le gouvernement iranien est déterminé à poursuivre le programme de développement économique durable axé sur la neutralisation des sanctions, mais parallèlement, nous avons suivi le chemin des négociations au cours des derniers mois, a précisé le ministre iranien des Affaires étrangères. Conversation téléphonique entre Amir Abdollahian et Antonio Guterres. Le chef de la diplomatie iranienne et le secrétaire général des Nations Unies lors d'un appel téléphonique tenu à l'initiative du secrétaire général concernant certaines questions d'intérêt commun régional et international, notamment la conférence sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ainsi que le processus des négociations sur la levée des sanctions, en discuter et échanger des points de vue. Hossein Amir Abdollahian, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, lors de cette conversation téléphonique, en réponse à l'accent mis par Antonio Guterres sur la nécessité d'un consensus lors de la réunion du TMP, a déclaré: le président de la récente conférence du TMP, en ignorant malheureusement les résolutions des conférences de 1995, 2000 et 2010, notamment dans le cas du Moyen-Orient, qui exhortait toujours le régime israélien à adhérer au TMP et placer ses installations nucléaires sous la protection de l'agence, a abandonné toutes les réalisations des conférences précédentes, ce qui est inadmissible. Pour sa part, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, lors de cette conversation téléphonique, tout en soulignant la nécessité d'un consensus en faveur d'un traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a souligné qu'il examinerait les préoccupations de la République islamique d'Iran et y prêterait attention. Notre objectif est de détruire l'armée sioniste. À l'occasion du 40e anniversaire de la fondation du Hezbollah, le quotidien libanais Al-Akhbar s'est entretenu avec un haut dirigeant de la résistance. Le dirigeant, dont le nom n'a pas été révélé, affirme que l'ennemi israélien agit de temps à autre sur la base qu'il connaît le niveau d'armement dont nous disposons. Mais plus tard, il découvre que le niveau que nous avons atteint est beaucoup plus élevé. Dans ce contexte, ce haut cadre de la résistance poursuit que l'ennemi a le droit de supposer que la résistance en termes d'armes et de drones possède les mêmes armements que l'Iran. Mais la grande vérité est que la résistance au Liban détient des aptitudes conformes à ses besoins, des capacités qui n'existent même pas dans la République islamique d'Iran, a-t-il précisé. Ce cadre de la résistance libanaise a déclaré que la bataille avec l'ennemi israélien ne s'est pas arrêtée malgré toutes les circonstances et elle ne s'arrêtera pas un jour. L'ennemi est conscient de ce fait et il s'efforce de ne pas atteindre la guerre que nous allons mener avec force. Cette guerre sera dévastatrice pour lui dans tous les sens du terme et il ne pourra pas affronter le Hezbollah dans tous les fronts, a-t-il déclaré. Exercice de drones en Iran, le succès est total. Les manœuvres conjointes de drones armés 1401 ont été lancées le mercredi matin avec la participation de plus de 150 drones dans les eaux du Golfe Persique et de la mer d'Oman. L'armée iranienne a conclu le jeudi 25 août un exercice de 2 jours de véhicules aériens sans pilote, a déclaré le vice-amiral Seyed Mahmoud Mousavi, porte-parole des exercices de drones à la télévision d'État. Au cours de l'exercice, divers drones de combat dont Kamon, Mohajer, Ababil, Karar et Bavar ont utilisé des bombes KM locales, des missiles Almas et des bombes MK-82 pour détruire des cibles, notamment des centres de commandement et de contrôle, des réservoirs de carburant, des dépôts de munitions et radars et systèmes de missiles, s'est-il félicité. Le premier jour de l'exercice, les drones fabriqués par l'armée iranienne et le ministère de la Défense ont effectué avec succès des missions de reconnaissance et de surveillance dans les zones frontalières et dans les eaux internationales. Le deuxième jour, des armes réelles ont été utilisées lors d'exercices d'entraînement au combat, a-t-il précisé. Téhéran et Moscou entendent prendre le contrôle du marché mondial du gaz. En juillet, Gazprom a signé un protocole d'accord avec l'Iranien Iranian National Oil Company pour 40 milliards de dollars, ce qui implique une coopération étroite entre l'Iran et la Russie dans le secteur pétrolier et gazier. Le document signé prévoit la participation de la partie russe au développement des gisements de pétrole et de gaz, à la construction de gazoducs pour l'exportation de carburant et au développement de projets de production de gaz naturel liquéfié. Les projets seront mis en œuvre dans le golfe Persique, ce qui est très pratique en termes de logistique des ressources énergétiques et de leur approvisionnement vers les marchés asiatiques. Le chef de la société National Iranian Oil Company a qualifié cet accord de plus grand investissement dans l'industrie pétrolière et gazière iranienne de l'histoire du secteur énergétique du pays. Ainsi, Téhéran et Moscou peuvent prendre le contrôle du marché mondial du gaz et créer un OPEP gazier.
Thank you.